On a commencé la semaine dernière une nouvelle série sur le travail. On reçoit des bons commentaires. La parole de Dieu est riche, souvent plus riche qu'on a l'impression. Lorsqu'on lit Genèse 1, 2, 3, on s'en va à travers ça, la création, où est le travail dans tout ça. Mais vraiment, notre prière, c'est que ça produise des belles réflexions. La semaine dernière, ce qu'on a vu ensemble, c'est que c'est un Dieu travailleur qui a créé. Lorsqu'on pense au Créateur, on a peut-être l'impression, on pense à un artiste, mais c'est un Dieu qui s'investit, contrairement à l'image qu'on a souvent de Dieu dans toutes sortes de religions. On a une image d'un Dieu qui est détaché, un Dieu qui n'est pas investi, où les Grecs imaginaient les dieux comme des êtres vraiment qui étaient en train de se prélasser dans leur divinité, puis en train de jouir, puis de se faire servir. Mais le Dieu de la Bible qu'on découvre, c'est un Dieu qui s'engage, qui s'investit, qui construit, qui crée, qui prend plaisir dans son œuvre, qui soutient l'univers, qui s'engage encore aujourd'hui, qui travaille encore aujourd'hui à travers une œuvre de salut. On a un sauveur qui vient, qui entre dans cette œuvre-là lui-même. Et on a vu que Dieu nous a créés à son image, travailleurs. On a vu la semaine dernière que le paradis terrestre, c'était pas le Club Med. C'était un jardin à cultiver. Et donc, l'idée du travail fait partie de l'essence même de Dieu, puisqu'on a été créé à son image. Ça fait partie de notre essence. Ce que c'est un être humain, c'est quelqu'un qui crée comme Dieu crée. C'est quelqu'un qui collabore avec Dieu dans son œuvre, mais les uns avec les autres aussi. Et c'est quelqu'un qui cultive. Maintenant, force est d'admettre que notre expérience du travail bien souvent, ne ressemble pas au paradis terrestre. Le travail est souvent difficile, plein d'obstacles, frustrant. Et ce matin, c'est ça qu'on va aller voir. On se tourne ensemble vers Genèse 2, Genèse 3, pour aller voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé, qui est venu bouleverser au quotidien, concrètement dans nos vies, notre expérience du travail. Juste vous rappeler que cette série-là est inspirée de matériel qui a été développé par Gospel Coalition, Gospel Shaped Work, entre autres Tom Nelson qui a produit vraiment du bon matériel, qui a beaucoup réfléchi sur la relation entre le chrétien et le travail. Et ce qu'on cherche à travers la série, c'est faire connecter votre dimanche matin avec la réalité de votre travail, que ce soit domestique, salarié lundi matin, des chiffres de nuit, n'importe quoi, comment on connecte ça ensemble. C'est bon? On va prier. Père éternel, Père, tu es un travailleur acharné, un créateur qui s'investit. Tu n'es pas détaché de ta création, tu y prends plaisir, tu réagis, tu crées même un moyen de venir réparer, reconstruire, faire renaître cette création-là qui a été affectée par le péché. Et Père, on veut te bénir non seulement pour ce que tu es, et t'adorer pour ce que tu es, mais on veut te bénir pour les milliards d'êtres humains sur la terre qui travaillent, qui sont besogneux, qui s'appliquent à produire, à construire et qui te ressemblent pour leur inventivité, pour leur créativité, pour leur persévérance, pour leur dévouement, Seigneur. Et en ceci, l'humanité te ressemble parce qu'elle a été créée à ton image. Mais la réalité, Père, c'est que le travail est difficile. Que ce soit à la maison, que ce soit du bénévolat, que ce soit s'occuper de nos parents qui vieillissent, que ce soit d'étudier pour réussir à avoir un métier, une profession, ou la réalité difficile souvent du marché du travail, Seigneur, ça ressemble tellement pas au paradis terrestre. Alors, on te prie, Père, de venir nous parler par ta parole ce matin, nous aider à comprendre ce qui s'est passé avec la chute, avec le péché, et comment cela est venu bouleverser notre expérience du travail pour qu'on puisse être attentif, apprendre, Seigneur, et grandir à travers ça, apporter une attitude différente, jeter un regard différent, un zèle différent là où tu nous as placés pour travailler. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter maintenant la parole de Dieu.
Alors, le texte de ce matin se trouve dans Genèse, au chapitre 2, les versets 15 à 17. Également le chapitre 3, versets 1 à 24. Et je vais lire dans la version Nouvelle Édition Genève. Alors, Genèse 2, 15 à 17 et 3, 1 à 24. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais ordonné, ou je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie.
Merci Stéphane. Mardi matin, cette semaine, je partais pour 3 jours. J'avais 3 jours de retraite. Je fais ça quelques fois dans l'année où je dois aller m'appliquer à étudier, prier. Puis la famille fait des sacrifices parce que je pars le mardi matin, je reviens jeudi soir, je suis pas sûr à quelle heure, tout ça. Alors mardi matin, je pars de bon matin. Évidemment, je savais que j'allais me taper le trafic, ça faisait partie de la game parce que je m'en allais dans le nord. Et donc c'est correct, on s'en va comme ça, mais quand je fais ça, j'ai toujours l'habitude de prévoir, d'écouter des livres audio, des prédications, des podcasts. Je suis déjà en train de me préparer. J'avais accepté de faire un ou deux petits téléphones, il y avait des choses qu'il fallait que je fasse comme suivi. Fait qu'en fin de compte, avec le trafic, j'ai fait 4 heures de téléphone non-stop, d'accord? Et puis, 4 heures, parce que ça m'a pris 4 heures à me rendre, parce que tu arrives à un endroit, tu as cherché une clé, puis là, tu es dans une conversation, puis c'est délicat, faut vraiment que tu sois attentif. Tu peux pas comme couper la conversation. Fait que tu te stationnes 20 minutes, puis après ça, tu continues un petit bout de route. Puis là, finalement, j'arrive pour aller chercher la clé pour le chalet, puis j'apprends que le soir même, ben il y a une réunion dans le chalet où est-ce que je dois me rendre. Ça veut dire qu'il va falloir que je m'éclipse puis que je trouve une autre place où aller étudier pour travailler pendant la soirée. Quand je suis arrivé à midi dans le chalet, j'étais pas content. J'avais comme des mots, tu sais, qu'un pasteur a pas le droit de prononcer dans ma tête, puis Dieu les entendait. Puis c'était juste comme pas bon. Après, j'ai parlé avec Aston, j'ai dit, j'étais tellement agressif, là. Ma job à ce moment-là, là, était vraiment frustrant. Parce que je voyais tout le retard que j'avais pris, puis tous les défis que j'avais devant moi. Mardi à midi, il a fallu que je m'arrête, que je m'assoie. Ça a pris, je vous dirais, une bonne demi-heure au moins, que j'aille dans la prière, puis que je demande à Dieu d'amener de la grâce dans mon travail. Parce qu'à ce moment-là, mon travail, c'était pas une bénédiction dans mon esprit. Et la réalité, c'est souvent ça, le travail peut être très difficile. Alors, quelques questions pour vous faire réfléchir pour commencer. Est-ce que tu travailles généralement en voyant ton travail comme une bénédiction? Pensez à cette semaine concrètement, je l'ai dit, hein, quelles que soient vos responsabilités, salariés ou non, étudiants, peu importe, là où tu as des choses à produire, c'est ton travail à toi, est-ce que tu vois ça comme une bénédiction? Est-ce que cette semaine, de regarder différemment ton travail, quel qu'il soit, soins domestiques, entrepreneur, bénévole, étudiant, est-ce que tu l'as regardé différemment cette semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton regard? Est-ce que tu as vu ton travail comme l'opportunité de ressembler à Dieu, au Dieu qui travaille depuis le début de la création, puis voir là-dedans ton identité qui est semblable à celle de Dieu, quelqu'un qui est en train de travailler? Est-ce que tu as regardé en quoi dans ton travail tu crées? En quoi tu collabores, en quoi tu cultives. C'est ça qu'on parlait la semaine dernière. Puis enfin, évidemment, la question difficile. Est-ce que ton travail a ressemblé au paradis terrestre ou est-ce que cette semaine, tu avais profondément conscience qu'Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre puis tu travaillais en zone de guerre et ça ressemblait plus à ça? C'est vous qui le savez. C'est vous qui le savez. Il y a quelque chose qui s'est passé avec la chute de l'homme qui a profondément bouleversé notre expérience du travail et qui nous donne parfois, peut-être souvent, l'impression que le travail est une malédiction. Alors qu'on a vu la semaine dernière que le travail en soi, c'est une bénédiction. Le travail n'est pas une malédiction, mais nous expérimentons tous les jours la dure réalité d'un monde brisé par le péché. C'est de ça qu'on parle ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque l'homme et la femme ont rejeté la seule interdiction que Dieu leur avait donnée? Ils ont rejeté à ce moment-là le plan de Dieu. À ce moment-là, fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le fruit? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, dans ce fruit-là? Je ne pense pas qu'il y avait grand-chose. Ils ont rejeté la seule interdiction que Dieu leur avait donnée, l'opportunité de collaborer avec Dieu. Le rejet du plan de Dieu est venu complètement bouleverser l'expérience du travail. On pourrait parler de plein d'autres choses. D'accord? Ce qui se passe là, ça vient nous transformer dans notre nature profonde. L'être humain, après la chute, est différent et on porte ça à l'intérieur de nous-mêmes. Chaque être humain naît avec cette nature-là déchue, pécheresse. C'est la réalité. Mais là, on parle du travail. À ce moment-là, notre expérience du travail a été profondément bouleversée. Et soyons honnêtes, notre expérience du travail ne ressemble pas au paradis terrestre. En tout cas, rarement. Rarement. Tim Keller, j'aime bien comment est-ce qu'il dit ça. Tout le monde sait que ce monde est brisé et troublé. Chrétien, non-chrétien, quelle que soit ta religion, que tu prétendes ne croire en rien puis être athée ou quoi que ce soit, tout le monde sait fondamentalement que ce monde est brisé et troublé, traversé par la maladie, la mort, l'injustice, l'égoïsme, les désastres naturels, le chaos. Le chaos. Comment expliquer que notre expérience du travail soit si différente de l'idéal qu'on trouve dans le paradis terrestre, dans la vision que Dieu avait pour le travail? Comment est-ce qu'on explique ça? Notre expérience du travail à tous les jours est beaucoup plus frustrante, difficile. Ça vient nous chercher dans nos tripes, souvent contrariante. C'est difficile de créer, de produire. C'est très différent de ce qu'on parlait la semaine dernière. Et pourtant, le travail n'est pas une malédiction. Le travail est là au début, dans le jardin, dans le plan de Dieu, dans la nature de Dieu, puis dans ce qu'on est nous-mêmes par nature. La chute, le péché d'Adam et Ève a entraîné des bouleversements profonds dans notre expérience du travail. Alors, juste relire Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme a rejeté le plan de Dieu. C'est ça qui s'est passé. Ce test-là, c'était simplement un appel à l'homme, à l'être humain, de collaborer avec Dieu, de reconnaître en Dieu son Créateur, puis de collaborer avec lui. Puis l'être humain a rejeté le plan de Dieu avec tout ce que ça a entraîné comme conséquence. Complètement inconscient jusqu'où ça va aller, les répercussions de ça. L'homme a refusé de collaborer avec Dieu. Une simple interdiction qui est placée devant l'être humain où il est invité volontairement. Dieu crée l'homme à son image, puis il dit, regarde, je te donne la terre. Tout est là, les conditions sont parfaites, tu es en communion avec moi, tu as été créé à mon image. Regarde comme c'est fascinant tout ce qu'il y a ici. Je te demande une seule chose. Tu vas collaborer avec moi, c'est moi ton créateur. Et je place ce test-là devant toi. Il y a une seule chose, tu ne touches pas à ça. Et l'être humain, au moment où il a décidé qu'il s'en allait là, a décidé qu'il ne collaborait pas avec Dieu. Il a décidé qu'il mettait fin à sa collaboration avec son Créateur, sans avoir conscience de toutes les conséquences. Mais il a décidé que c'est lui qui allait se définir lui-même. Et cela a entraîné des conséquences énormes. Et tout se complique à partir de là. La création, la collaboration, la culture, les trois aspects du travail qu'on parlait la semaine dernière, tout se complique à partir de ce moment-là. Alors, on va regarder maintenant comment concrètement, dans notre expérience, à partir de la Genèse, mais d'autres passages aussi, comment concrètement, dans notre expérience du travail, ça a été bouleversé par le péché. Originellement, mais comment ça continue de l'être aussi à tous les jours? À tous les jours, ça continue parce que l'être humain continue à pécher, nous le premier, et on vient compliquer les choses dans notre expérience du travail. Genèse 3, 17, 19, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture et tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. » Il lui a dit, « Tu mourras. » Et cette mort a commencé dès l'instant où ils ont pris le fruit. « Tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Des épines et des ronces. Tout travail est devenu difficile et souvent décourageant. Dieu dit que le travail va continuer à produire des fruits. Marquez bien dans le texte. Et c'est vrai. On nourrit des milliards de personnes sur la terre juste en travaillant la terre, juste en nourrissant les animaux. Donc, le travail continue à produire des fruits, mais tout travail est devenu difficile et souvent décourageant. J'ai trouvé ça intéressant. Un théologien, R.W. Forrester, a juste relevé le fait que tu as deux des aspects... Dans la Genèse, tu as deux des aspects à la chute les plus beaux de l'être humain. travailler pour créer comme Dieu crée, puis procréer, se reproduire. Et les deux sont affectés par ce jugement de Dieu sur l'être humain. Et dans notre langage, et dans bien, bien des langues, on va servir du langage de un pour l'autre. On va dire qu'une femme, on va dire d'une femme qu'elle est en travail, parce que c'est difficile. On va parler d'un accouchement difficile pour un projet qui a été dur à mener à terme, à lancer. Vous réfléchirez à ça pour le fun. Et ces deux plus beaux aspects de ce que c'est l'humanité ont été profondément bouleversés. Et tous les deux reflètent maintenant dans notre expérience, lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on va travailler, cette dure réalité-là. Penserez à ça. Tout travail que nous réalisons comporte des difficultés, souvent d'énormes difficultés. Les résultats sont difficiles à obtenir. Quelques exemples, les technologies, les systèmes, les structures, l'économie avec lesquelles nous travaillons, tous les jours reflètent ce monde brisé et déchu. Quelle que soit votre industrie, il y a des difficultés qui sont là, qui reflètent ça. Les relations de travail à la maison sont souvent difficiles. La compétition commerciale est souvent cruelle, sans merci. Là où il pourrait y avoir une belle compétition, c'est cruel, sans merci. Les lois, les réglementations gouvernementales, la bureaucratie, qui en principe est là pour faciliter, semblent souvent nuire davantage que faciliter, pour ne pas dire carrément empêcher le bon travail. Le chômage et le vieillissement de la population mettent une grande pression sur ceux qui ont un emploi. Il y a toujours des jeux politiques, des coups de couteau dans le dos au travail, même dans les foyers souvent. Il y a des jeux de pouvoir, les ambitions personnelles viennent nuire à la réalisation d'un travail commun. On est ensemble dans une entreprise, dans un projet, puis cette nature pécheresse-là vient tout bousiller, alors qu'on pourrait faire quelque chose de bien. Non, il faut absolument que les ambitions personnelles viennent comme gâcher des trucs, puis on perd de vue le bien commun qu'on est en train d'essayer de construire ensemble. Et ça se manifeste pas seulement dans la nature, mais ça se manifeste dans la nature humaine, dans le cœur humain. Toute la création gémit et soupire. Donc, dans la nature, dans le cœur humain. Premièrement, la nature. L'apôtre Paul va nous dire que toute la création gémit et soupire après une libération. Je fais juste une parenthèse ici. Et si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, il y a une espèce de désordre qui est produit au moment où Dieu maudit la terre. Puis il y a quelque chose qui pousse vers le chaos. On voit un univers qui est ordonné et qui s'en va davantage vers un chaos. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, 22, 23, « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Et Paul est en train de faire allusion à un jour qui est encore à venir où Dieu créera des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et on trouvera plus ce chaos-là qui est comme la destinée de l'univers. Et Paul dit, toute la création reflète ça. Et on le voit même dans notre travail. Alors nous, comme chrétiens, on aspire, on attend un jour où non seulement on va être libérés spirituellement, mais des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et on aura pu à lutter contre cette malédiction-là pour produire, pour réaliser. Quelques exemples. C'est très difficile, voire impossible, de construire sans avoir un impact négatif. Tout ce que l'être humain cherche à faire, c'est difficile. Ce qu'on produit va tendre à nuire à un équilibre fragile dans notre environnement. Tout ce que nous construisons cherche à se détruire avec le temps. On a beau faire les plus belles choses au monde. Leur course, c'est vers ce chaos-là, cette destruction-là. C'est intéressant, même les systèmes informatiques, les technologies, lorsqu'on est allé vers le numérique, on s'est dit, boy, tout va être plus simple, ça va demander beaucoup moins d'entretien. On parle pas de quelque chose de physique, c'est des équations. Une fois qu'ils sont programmés là, ça devrait pas dégénérer. Puis la réalité, c'est qu'on se rend compte que il y a des bugs qui s'introduisent, il y a des problèmes qui s'introduisent, il y a des erreurs qui vont dans le système, puis ça demande énormément de travail d'empêcher le chaos de venir s'installer, même dans un système informatique, même dans le numérique. Toute la création est affectée par cette trajectoire où on passe d'un univers ordonné vers un chaos. Et on ne s'en tirera pas. Toute la création a été affectée. Mais parlons du cœur humain. Parce que la réalité, c'est que c'est ça le plus difficile à vivre. Si je ne travaillais pas avec des êtres humains, ça irait bien. Mais je travaille avec des êtres humains, dont moi-même, c'est déjà un problème. Notre cœur a été profondément affecté par le péché et nuit profondément à notre travail. Tom Nelson dit ceci, « Dans ce monde brisé, le dessein originel de Dieu pour le travail a été profondément affecté et corrompu et nous le ressentons au plus profond de nous-mêmes chaque jour lorsque nous travaillons. » Genèse 3, 7 à 13. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Soyez attentifs, il y a énormément d'informations dans ce passage-là. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » Dans ce passage-là, on voit apparaître la honte, la culpabilité, l'égoïsme, au lieu de se protéger, au lieu de prendre soin de l'un et de l'autre, ils deviennent adversaires, la méfiance, la crainte des autres, le mensonge. Et toutes ces choses-là qu'on voit là dans Genèse font partie de la réalité de notre expérience du travail. Ce que vous avez là, vous pourrez relire le passage 20 fois. Puis vous allez voir toutes ces choses-là apparaître cette semaine dans votre travail, quand vous êtes en relation avec des êtres humains. En voyez-vous, dans le paradis, il n'y avait pas ça. Ce n'est pas dans le dessin originel, mais la nature profonde de l'être humain est pervertie. La honte, la culpabilité, le mensonge, l'égoïsme. J'ai besoin maintenant de planter l'autre pour réussir à assouvir mes ambitions. Et tous les coups sont permis, les mensonges sont admis. Des épines et des ronces. Le péché originel a apporté des épines et des ronces dans tout ce que nous produisons. Que ce soit dans ce que nous créons dans la nature, c'est évident, même dans des systèmes informatiques. Et c'est évident dans la nature humaine, dans ce qu'on est, dans notre cœur et ce que nous, on apporte au travail. Des épines et des ronces. Puis c'est ça qu'on apporte au travail. Maintenant, il y a un autre aspect qui est super important. Et là, on va se tourner vers quelqu'un d'autre. L'homme, peut-être dans la Bible, qui a réalisé les plus grandes choses. Le grand roi Salomon, qui a pu construire un temple pour l'Éternel, qui a construit des palais, qui a étudié, qui a eu la connaissance, les expériences, la richesse. Et cet homme-là nous aide à comprendre un des aspects les plus frustrants, les plus difficiles de tout ce que nous produisons sur la terre. Voici ce qu'on lit dans Ecclésiaste 2, probablement lui qui a écrit ce livre-là. Dans Ecclésiaste 2, 17 et 18. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que le travail a perdu son sens dans une certaine mesure. Le travail a perdu son sens dans une certaine mesure avec la chute, avec le péché, et avec la malédiction que Dieu a prononcée. Ecclésiaste 2, 17, 18. Et j'ai haï la vie. Lui qui avait goûté à tout. Lui qui avait produit. Là. Lui qui avait créé, qui avait construit, qui avait vu des choses extraordinaires. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succède. Ce qu'on veut faire à travers le travail, c'est qu'on veut créer n'importe quoi, hein? Que ce soit élever nos enfants, que ce soit un organisme quelconque, que ce soit écrire un livre, que ce soit construire une maison, entretenir une maison. On veut faire quelque chose qui va durer dans le temps, qu'on va pouvoir apprécier, dont on va pouvoir jouir avec les années qui passent. Mais la réalité, c'est que tous les efforts qu'on y met ne produisent pas le fruit qu'ils devraient. On met énormément d'efforts et ça ne produit pas le fruit que ça devrait produire. Et dans ce sens-là, le travail perd son sens. Parce qu'on s'investit pour construire, mais ça ne produit pas ça pour toutes les épines et les ronces qui surviennent dans notre travail. Un des aspects que le travail, du travail dans un monde déchu, c'est que ça ne porte pas tout ce fruit-là. Et ça va contre fondamentalement ce qu'on est. Dieu est un créateur, et il nous a créé à son image, et on veut faire des choses qu'on va construire et qui vont durer, qui vont être belles, qui vont s'inscrire dans le temps. Un des dirigeants de Google, vous avez peut-être déjà attrapé ça, a dit ceci: « Faites quelque chose de merveilleux pour le monde. Do something amazing for the world. » Ben, c'est le fun quand tu es rendu là, avec Google, de lancer ça. Mais la réalité, dans l'expérience du travail, de 99% probablement de la population, c'est qu'ils ne feront pas des choses amazing for the world. Le day-to-day est beaucoup plus simple que ça. Je veux réussir à livrer ma job aujourd'hui. Et dans ce sens-là, le travail a perdu son sens. Le travail a perdu son sens parce qu'il ne traversera pas l'histoire. Et c'est ça que l'Ecclésiaste est en train d'exprimer. Je peux construire avec sagesse, avec minutie, avec ardeur, avec zèle. Je peux bâtir quelque chose, je voudrais laisser ça. Je ne sais pas si mon fils ou ma fille à qui je voudrais laisser ça vont être trop stupides pour vraiment construire sur ça. S'ils vont être trop insensés pour vraiment profiter de ça. Et combien de fois on a vu des gens qui lèguent quelque chose de qualité à leurs enfants? Ça reste une génération, c'est fini après. Tocqueville, dans sa compréhension des États-Unis au 19e siècle, lorsqu'il est venu visiter, il dit « c'est très rare qu'on voit la richesse d'une génération se poursuivre dans l'autre génération. Elles se construisent dans une génération puis se détruisent dans l'autre, se construisent dans une génération, se détruisent dans l'autre. » Les richesses. Le patrimoine ne se transmet pas vraiment. Ce que je construis ne va pas avoir de pérennité dans le temps. Et dans ce sens-là, dans notre nature profonde, on veut que ce qu'on fait s'inscrive dans le temps. Et ça a enlevé un sens profond au travail. Puis c'est la réalité. Je comprends que c'est un peu plus philosophique, mais je crois que c'est une des réflexions qui est derrière une bonne partie de l'hésitation des plus jeunes générations à s'engager à fond. Parce qu'ils disent « la vie est courte. La vie est courte, puis tout ce que je vais faire dans deux générations, c'est oublié. Si je suis quelqu'un d'exceptionnel, dans deux générations, je n'existe plus. Je suis disparu et tout ce que j'ai fait avec. » Et je pense que ça fait partie de cette angoisse profonde-là de l'être humain qui dit « le travail a perdu son sens ». Le travail a perdu son sens, non seulement ça, mais on lui donne un autre sens, on déforme le sens du travail. On expérimente le travail qui est censé être une bénédiction, mais qui ressemble souvent à une malédiction. Puis tout ça aurait besoin de grâce, aurait besoin de voir de la grâce apparaître dans le travail, qui apporterait un baume, qui viendrait donner un sens profond au travail. Et je sais, ce matin, c'est sombre ce qu'on est en train de dire. L'Évangile va vraiment apparaître la semaine prochaine. Mais on va juste entrouvrir la porte tout à l'heure. Mais on sent que le travail est lourd et qu'on aurait besoin d'une intervention divine, de grâce de Dieu pour apporter un baume sur le travail. Avant d'aller plus loin, il faut encore voir un autre aspect négatif très concret. Le travail a perdu son sens. Mais nous lui donnons aussi un sens distorsionné. On distorsionne le sens que le travail est censé avoir dans nos propres vies comme créatures de Dieu. Le travail devient notre identité. Bon, l'exemple le plus frappant, ce serait les workaholics. Est-ce qu'il y en a ici des workaholics? Gang de menteurs. On est juste trois. Aïe, aïe, n'importe quoi. Menteur en plus. On transpose notre identité dans le travail. Jésus raconte l'histoire d'un homme qui avait mis son identité puis toute sa valeur dans ses richesses. Et puis à la fin de sa vie, voici le message qui lui est dit. De la part de Dieu insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Parce que cet homme-là avait placé toute son identité dans ses réalisations, dans ses richesses, dans ce qu'il était en train de construire, et puis il s'installait. Et donc, une des manières qu'on distorsionne le travail, on l'a dit, on a été créé à l'image de Dieu. Mon identité est dans le fait que j'ai été créé à l'image de Dieu. Et nous, on distorsionne ça, puis on dit non, mon identité est dans mon travail. Et donc, je vais me réaliser, je vais m'accomplir à travers mon travail. Et ça, c'est une distorsion de ce que c'est le travail. Parce que ça ramène toute la question. Ça veut dire qu'il y a certains jobs qui vont donner beaucoup de valeur à un individu. Puis lorsque je m'en vais vers celui qui n'a pas beaucoup de capacité, là, il faut que j'invente tout un autre discours. Tu sais, ta valeur n'est pas dans le travail, tu es un être humain, puis l'être humain, c'est précieux, tu sais, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de bon. Je sais que je me répète, hein? Il faut que ça rentre, ces éléments-là, si on veut comprendre où se situe notre identité. Ah, tu es plein de potentiel! Fait que tu vas trouver ton identité, ta valeur, comment tu vas te réaliser. Waouh, toute mon identité est là. Puis là, le Seigneur place dans ta vie quelqu'un qui est super limité en capacité, puis qui comprend bien ce que tu es en train de dire puis incarner, qui comprend très bien le message, il n'y a aucune valeur. Puis là, tu t'en vas le voir, puis là, tu veux le consoler. Tu sais, la valeur d'un être humain, c'est pas là. Tu es une personne, puis moi, je t'aime. On distorsionne le sens du travail. On travaille parce qu'on ressemble à Dieu. On ne travaille pas pour définir notre identité dans notre travail. Il n'y a pas de saut métier. Pas du tout. Il y a simplement des capacités qui sont mises à l'œuvre pour servir mon prochain et glorifier Dieu. Mais l'autre extrême, c'est la paresse. L'autre extrême, c'est la paresse. L'espèce d'attitude de « tout m'est dû ». Moi, mon identité n'est pas dans le travail. Les gens sont là pour travailler, puis j'aborde le travail avec paresse. Tom Nelson le dit comme ça, j'aime bien ça. La paresse nous amène à profiter du travail consciencieux des autres et à développer une mentalité du « tout m'est dû ». On me doit les choses. Et donc, le travail a perdu sa valeur propre. De dire, je suis un être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Je dois travailler à la mesure de mes capacités. Je dois mettre mes capacités au service du bien commun, de mon prochain. Puis en fait, on va souvent dire, je ne le développerai pas ce matin, on va souvent dire que le travail est un des endroits où nos idoles, les idoles du cœur, se manifestent le plus. Et si je prenais le temps de m'asseoir avec chacun d'entre vous, si on prenait un café ensemble, on en aurait des idoles à exposer. Moi le premier, mais vous aussi, qui se manifestent à travers votre travail. Des choses qui deviennent plus importantes que Dieu, qui déplacent Dieu du centre de votre vie. Pas nécessairement tout le temps, pas dans la macro. Dans la macro, vous dites, moi je suis chrétien, c'est Dieu qui est au centre. Mais dans les réactions du quotidien, on découvre les idoles du cœur bien souvent et ça parle très très fort. Tout ça brosse une image du travail qui est très, très, très négative. Je suis conscient de ça. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? C'est parce que, intuitivement, bien souvent, on définit et on voit le travail comme une malédiction. C'est un mal nécessaire qui me permet de me rendre à ma journée de congé. C'est un mal nécessaire qui me permet d'acquérir des îlots où je peux enfin faire ce que je veux. Je peux enfin être qui je suis pour de vrai. Mais le travail, dans sa nature profonde, est une bénédiction. C'est la grâce de pouvoir consciemment prendre mes ressources, mes capacités et les mettre au service du bien commun, d'aller créer avec d'autres personnes, collaborer avec eux, cultiver avec eux. C'est une bénédiction. Comment ça se fait qu'on expérimente le travail comme une malédiction? D'où ça vient cette affaire-là? Ça vient de la chute. Ça vient de la chute où l'être humain a refusé de collaborer avec Dieu. Il a dit, je vais me définir moi-même. Je n'ai pas besoin de toi pour me définir. Toute la nature en a été affectée parce que Dieu a dit, je ne permettrai pas à l'homme de continuer comme ça perpétuellement. Des êtres qui sont devenus égoïstes, méchants, qui vont commencer à s'entretuer, qui ne vont pas collaborer ensemble, mais qui vont chercher juste à se marcher un par-dessus l'autre, à se caler pour pouvoir trouver leur place. Je ne permettrai pas à la création de continuer comme ça. Et je veux être conscient de ça lorsque je m'embarque dans mon travail cette semaine. Lorsque j'arrive au travail et je dis, mais pourquoi c'est tellement difficile? Pourquoi je suis tellement misérable au travail? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'obstacles? Je cherche le bien de l'entreprise, je cherche le bien de ma famille, je cherche le bien de l'organisme où je suis en train de servir, je cherche le bien de la personne que je suis en train d'aider. Cette semaine, ce matin, j'ai envoyé un texto à mon frère, à Hugo. J'ai dit, Hugo, Dieu forme en nous des cœurs de serviteurs quand les gens que nous servons nous traitent comme de misérables serviteurs. Pas lorsqu'ils nous chantent des louanges. Et je suis certain qu'au travail, vous expérimentez ça de toutes sortes de manières. Le travail n'est pas une malédiction. Mais on expérimente tous les jours la dure réalité du travail. Un travail qui est dans un monde brisé, dans un monde déchu. Il y a des épines et des ronces constamment. La nature est affectée, nos cœurs sont affectés. Le travail a perdu son sens profond parce qu'il ne va pas persister dans le temps, parce qu'on n'arrive pas à produire, c'est difficile de produire. Et on donne un sens distorsionné au travail, on voit notre identité dans le travail alors qu'on est déjà créature de Dieu en Jésus-Christ, enfant de Dieu. Ou encore, on pense que tout nous est dû et qu'on n'a pas à contribuer. Nos idoles dans notre cœur se manifestent à travers le travail. Et on a besoin d'une intervention divine pour qu'il y ait de la grâce, qui vienne dans nos cœurs, dans notre vision du travail, qu'il y ait de la grâce qui vienne dans notre marché de travail, dans notre emploi, dans notre quotidien. On a besoin d'une grâce divine qui vient changer mon rapport au travail, puis qui vient éventuellement changer le milieu autour de moi, parce que moi j'ai été bouleversé, transformé par cette grâce-là. Alors Dieu merci. Dieu merci. Dieu n'a pas arrêté de travailler. Dieu a créé, l'homme s'est rebellé, puis Dieu a continué à travailler. Et Jésus-Christ est venu accomplir un travail absolument extraordinaire. Il regardait là les hommes, puis il voyait le gâchis qu'il y avait là, puis il est venu marcher parmi les hommes. Et il venait accomplir une sale job de bras. Il s'en venait pour mourir sur une croix et offrir sa vie en sacrifice pour nos péchés, afin qu'on puisse connaître la grâce de Dieu qui vient premièrement dans nos cœurs, puis ensuite de ça, autour de nous, va se manifester par nos vies. Et la semaine prochaine, on va parler de l'Évangile. Comment est-ce que l'Évangile, maintenant, peut venir affecter mon cœur, mon rapport au travail, éventuellement mon milieu de travail, changer la culture autour de moi, parce que je porte ce message-là et je l'incarne, ce message-là. Mais il y a un autre encouragement aussi. Il y a un autre encouragement aussi dans l'Évangile. C'est que Jésus-Christ est venu pour sauver un monde brisé et nous a fait la promesse qu'il va revenir un jour, nous donner des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où cette malédiction-là ne sera pas là. Quand vous pensez à l'éternité, puis vous dites, « Ouais, je ne sais pas si ça va être cool d'être assis, puis juste comme adorer Dieu. » C'est impossible pour moi d'imaginer l'éternité comme ça, parce que Dieu m'a créé à son image. Fait que je vois pas en quoi j'arriverais de l'autre bord puis je tomberais sur le neutre. Dieu va simplement enlever les malédictions qui sont là, puis il va nous laisser être entièrement ce pour quoi on a été créé. J'ai juste hâte de continuer à créer, à collaborer puis à cultiver de l'autre côté. J'ai tellement hâte. On va prier ensemble. Père éternel, je veux te demander premièrement de continuer à opérer un changement dans nos cœurs. Pour ceux et celles dans l'Assemblée qui entendent pour la première fois, ou c'est la première fois qu'ils réalisent tout simplement, que le travail est une bénédiction, que le travail était là dans le jardin, que travailler, c'est ressembler à Dieu. Créer, c'est ressembler à Dieu. Produire, c'est te ressembler, Père. Je prie premièrement de continuer à élargir notre intelligence afin vraiment qu'on soit renouvelé et que notre vision du travail change. Père, la réalité, c'est qu'on voit plus souvent, dans notre expérience quotidienne, toutes les conséquences de la chute. Et pour nous, on définit le travail comme ça parce que l'expérience est difficile, Père. Et je te prie d'ouvrir nos yeux cette semaine dans toutes nos activités, toutes nos responsabilités, pour voir en quoi les épines et les ronces sont là, en quoi non seulement le monde est bousillé à quelque part, mais notre cœur aussi l'est, en quoi le travail a perdu son sens premier, en quoi on distorsionne le sens du travail, Seigneur. Aide-nous à voir ces choses-là. Et Seigneur, aide-nous à saisir la grâce qu'il y a en Jésus-Christ, de savoir que même si l'homme a refusé de collaborer avec toi, a mis fin à cette collaboration-là lorsqu'il a péché, toi, tu ne nous avais pas abandonnés. Tu es venu vers nous en Jésus-Christ, pour nous faire entrer dans une œuvre nouvelle, une nouvelle création. Et tu nous invites à collaborer avec toi, Seigneur, à créer avec toi, à apporter une culture nouvelle autour de nous. Viens, Seigneur, nous donner cet espoir-là pour notre milieu de travail. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.